Et le ventre congolais avec Alain Hirung à la présentation.
Bonsoir, ce 26 janvier 2010, le chef de l'État Joseph Kabila Kabange totalise 9 ans à la tête de la République démocratique du Congo. Quel bilan dressé de ces 9 ans au pouvoir sur le plan sécuritaire, politique et socio-économique? Quels sont les défis à relever pour le futur? Nous recevons comme invité Tekis Moulaïla, sénateur PPRD, rapporteur de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Bonsoir sénateur.
Bonsoir, monsieur le journaliste. Je suis aussi président du groupe provincial du Maniema. Merci.
Merci. Maître Jean-Joseph Mukindiwa Mulumba, cadre de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, c'est l'opposition non institutionnelle, également avec nous dans ce studio. Bonsoir, maître.
Bonsoir.
René Lemarchand, professeur émérite des sciences politiques à l'Université de Floride aux États-Unis, et récemment auteur de l'ouvrage intitulé « La dynamique de la violence en Afrique centrale ». Lui, il est en ligne depuis les États-Unis. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous également, chers auditeurs, vous êtes très nombreux à avoir réagi par rapport à cette émission. Si c'est le cas de Théo Chamba de Kamanga au Cassé occidental, le bilan du chef de l'État est largement positif car il a pour la première fois organisé les élections présidentielles, législatives et des gouverneurs, ainsi que le maintien de la paix à l'est du pays, mais il lui reste d'organiser les élections locales et de rendre l'enseignement primaire gratuit. Paul de Bounia dans la province orientale, le président Kabila a négligé les secteurs moteurs, l'enseignement, la santé et l'armée. Ceci fait que le peuple a perdu toute confiance. Rendez-vous en 2011. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Le 26 janvier 2011, Joseph Kabila prêtait serment devant les membres de la Cour suprême de justice, devenant ainsi le 4e président de la République démocratique du Congo. 10 jours plus tôt, le 16 janvier 2001, son prédécesseur, Laurent Désiré Kabila, venait de perdre la vie assassiné dans son bureau au Palais de Marbre. 9 ans après son avènement au pouvoir, la majorité qui s'est forgée juge le bilan du président Kabila positif, tandis que l'opposition estime que beaucoup reste à faire. Reportage Axel Goncho.
Le bilan des 9 ans des pouvoirs de Joseph Kabila est largement positif, affirmation du député de la majorité Gaston Moussemena. Selon lui, à l'actif du président Joseph Kabila, on peut noter la pacification et la réunification de la RDC, déchirée par 3 mouvements rebelles au nord et à l'est depuis 1998. Autre fait marquant des législatures de Joseph Kabila, toujours d'après Gaston Moussemena, l'organisation de la première élection présidentielle au suffrage universel en 2006. D'après lui, beaucoup d'efforts sont fournis pour effacer la dette de la RDC et améliorer les conditions de vie des populations. À l'opposition, on reconnaît aussi des points positifs à la gouvernance de Joseph Kabila. Le député Jean-Martin Moukonkolé évoque notamment l'Union nationale. Toutefois, il juge le bilan de Joseph Kabila globalement négatif. Il en veut pour preuve le retard et l'absence observés dans la matérialisation de plusieurs programmes du gouvernement. L'armée n'est pas réformée, affirme-t-il. Les budgets de l'État ne sont pas exécutés, la production agricole ne redécolle pas, pendant que la production minière tente à disparaître.
Pour permettre à nos auditeurs de mieux cerner la question, je vous propose que l'on aborde le bilan du président Joseph Kabila par les aspects, le secteur sécuritaire et politique, allais-je dire, et en deuxième partie, le socio-économique. Sénateur Tekis Moulaïla, vous êtes membre du PPRD, le parti présidentiel, et rapporteur de la commission défense, sécurité et surveillance des frontières au Sénat. Qu'avez-vous à dire sur le bilan du président Kabila 9 ans après sur les aspects sécuritaires et politiques?
Merci, monsieur le journaliste. Parler du bilan du président de la République dans le secteur sécurité et politique, c'est me demander de vous rappeler d'abord l'engagement qu'il a pris. Lors de son investiture, il a promis d'instaurer la paix, la communion nationale, le dialogue et la réconciliation, il a promis la démocratie. Je vais vous rappeler que cela faisait partie de ces défis. Le dialogue. Le dialogue, vous l'avez
Allez-y,
vous avez vécu le dialogue intercongolais, lui-même le chef de l'État. Il avait dit en ces termes, nous allons en accord et en concertation avec les pays alliés qui nous soutiennent pour faire face à l'agression, examiner les voies et moyens pour relancer l'accord de Lusaka afin qu'il puisse non seulement arriver à un cessez-le-feu effectif, mais aussi à ramener la paix dans la région des Grands Lacs en prenant en considération toutes les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, tout en préservant les attributs fondamentaux de la République, à savoir l'indépendance, la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité. Et là, je vous confirme que le dialogue intercongolais a eu lieu. Hier, quand il prenait le pouvoir, le 26, l'Est était sous occupation. Aujourd'hui, l'Est n'est plus sous occupation. Hier, quand il prenait le pouvoir, il y avait des rebelles. Mais aujourd'hui, puisqu'il a parlé de la communion nationale, ces rebelles, après le dialogue intercongolais, se sont retrouvés avec lui au gouvernement afin que tous les Congolais comprennent qu'il ne s'agit pas, et ou bien qu'on ne peut pas aller vers le développement en prenant les armes, mais plutôt en se mettant ensemble. Il y a eu réellement, et vous pouvez le confirmer avec moi, que sur le plan sécuritaire, il y a ces jours, la République démocratique du Congo, dans tous ses quatre coins de la République, est sous le contrôle du gouvernement congolais. La guerre qui avait à l'Est et les tentatives qui continuaient ont pris fin. Récemment, vous avez senti à l'Équateur, il allait y avoir une tentative. On a mis fin politiquement. Il a parlé de la démocratie. Tous les partis politiques qui ont accepté d'évoluer dans le cadre de la démocratie se sont alignés. Ils ont participé aux élections. Aujourd'hui, vous avez un parlement national bicaméral. Vous avez le parlement provincial. Vous le savez, il y a eu des partis dans le cadre de leur idéologie qui se sont écartés du système, mais politiquement, c'est la réussite totale. Sur le plan sécuritaire, Rwanda, Burundi, Ouganda qui occupaient l'Est se sont retirés. Là, il y a lieu de féliciter la MONUC. La MONUC qui a accompagné la République démocratique du Congo dans ce processus de la paix et même dans ce processus politique de démocratisation des élections. Et là, tous les partenaires nationaux, internationaux, je vous remercie, vous pouvez toujours, je vous vois déjà engagé à donner la parole à mon voisin de droite. Je vous laisse
merci sénateur d'avoir compris. Maître Jean-Joseph Mukendi, vous êtes cadre de l'UDPS, parti de l'opposition non institutionnelle. Le bilan est largement positif sur le plan sécuritaire et politique, comme l'a dit c'est ce qu'a dit le sénateur Tekis Moulaïla.
Ben, je crois que le sénateur, ses électeurs qui l'écoutent là au Maniema, au Kivu, si jamais on devait les interviewer, je pense qu'ils le contrediraient sur toute la ligne. Par honnêteté intellectuelle, je rejoins le sénateur sur un point. Le côté positif, il faut le reconnaître. Lorsque le président Kabila, premier mandat, est entré au pouvoir, donc le 26 janvier, il a marqué son entrée au pouvoir par l'acceptation de la conférence du dialogue intercongolais. Et je pense que cette acceptation, l'organisation du dialogue intercongolais, ainsi que sa finalisation, on peut dire que c'est quelque chose de positif. Cette disposition-là, qui a tranché avec l'attitude de feu le président Laurent Désiré Kabila, est un point positif. Après le dialogue intercongolais, qu'est-ce qui est arrivé? Mais je pense qu'en ce moment-là, on s'est dit, bon, écoutez, on les a eu au piège, maintenant, on les prend, on les tient. Et sur le plan sécuritaire, sur le plan sécuritaire d'abord, et puis sur le plan politique. Sur le plan sécuritaire, c'est vrai qu'au moment du dialogue intercongolais, le pays était divisé entre différentes forces rebelles qui contrôlaient le pays, y compris donc le président Kabila lui-même avec la faction issue de l'ancienne AFDEL. Il y a eu donc une unicité par la volonté de tous les Congolais d'avoir un pouvoir commun. Mais qu'est-ce qui a changé depuis lors? Le président Kabila a fait dans sa campagne sous le slogan de Amani, la paix dans l'Est. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut réellement parler de la paix dans l'Est? Et le Maniema peut-être est un peu moins épané par rapport au Nord-Kivu et au Sud-Kivu, où chaque jour, et nous lisions hier encore dans un rapport récent, le tout dernier rapport de Human Rights Watch, qui vous montre qu'il est impossible de se promener, de faire une activité agricole à l'Est et notamment au Kivu. J'étais avec un homme d'affaires la semaine passée, de Goma. Il nous parle du parc de Virunga qui est un bijou, qui est occupé par, pour le moment, et c'est connu de tout le monde, occupé par des forces rebelles. C'est vrai que donc les anciens rebelles qui avaient nom RCD, MLC, RCN, KD, etc., ceux-là sont partis, mais ceux qui les ont remplacés sont pires. Et comme on dirait, donc, on est passé, comme on disait dans la mythologie grecque et latine, de Calypse, passé de Calypse à Scylla, c'est-à-dire de mal au pire. En ceci que pour le moment où nous parlons, parler de la paix au Nord Kivu, c'est un leurre. Aussi bien la sécurité dans la ville de Goma, dans la ville de Bukavu, c'est réellement, ça relève presque du miracle. Les assassinats quotidiens. Nous sommes dans le studio ici, nous avons déploré 2 assassinats de journalistes à Bukavu. Et tout ça, faut-il le mettre au bilan positif, comme l'a dit l'honorable sénateur du président Kabila? Je le mets à son début de bilan positif, puisque le bilan positif, c'est celui-là, c'est-à-dire que la sécurité a cessé, l'insécurité a cessé d'être entretenue par les forces rebelles congolaises, elle est maintenant entretenue par les forces rebelles étrangères.
Et sur le plan politique.
Sur le plan politique, et là, c'est le pire. Parce que la démocratie tant demandée au dialogue intercongolais, la démocratie n'existe pas. C'est un leurre. Au moment où nous parlons sur le plan de la démocratie, nous avons fait un recul. L'honorable parlait des élections tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'on avait prévu à Sainte-Cité? Normalement, maintenant, on devait avoir des élections locales. Pourquoi ces élections n'ont pas eu lieu? Et ils n'auront pas lieu cette année, on prétend qu'elles auront la semaine prochaine. On va y revenir tout à l'heure, puisque là, réellement, c'est l'échec total, puisqu'il y a un recul de la démocratie, il y a même un danger pour la démocratie, et nous, à l'UDPS, je vais vous donner les exemples vivants de ce que nous vivons, notamment à l'intérieur du pays.
Voilà, le temps de donner la parole au professeur René Lemarchand, professeur émérite des sciences politiques à l'Université de Floride aux États-Unis et récemment auteur de l'ouvrage intitulé « La dynamique de la violence en Afrique centrale ». Professeur, vous avez suivi le sénateur Moulaïla, maître Jean-Joseph Mukendi. Les avis sont partagés sur le bilan des 9 ans du président Kabila sur le plan sécuritaire et politique.
Oui, bien écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité à participer à votre dialogue. Je ne prétends pas avoir la même maîtrise des dossiers que vos interlocuteurs à Kinshasa, mais il est bien évident que la réforme du secteur sécuritaire, c'est une tâche absolument gigantesque et urgente. Et cela, je me permets d'insister là-dessus, c'est l'un des aspects les plus négatifs du bilan de Joseph Kabila. Il reste encore énormément de choses à faire pour dégraisser les effectifs d'une armée qui se monte maintenant à 115 000 hommes, une aviation de 2500, une marine de 6700. Il faut procéder d'abord et avant tout à un dégraissage des effectifs, dont certains sont tout à fait fantomatiques. Il faudrait procéder à une formation accélérée des unités combattantes. Il faudrait restructurer l'état-major, il faudrait procéder à un contrôle de la chaîne des paiements, il faudrait accélérer la formation des cadres de police. Il y a environ maintenant, je crois, 70 000 policiers en RDC, mais on peut s'interroger sur leurs compétences et leur efficacité. L'un des aspects les plus scandaleux de l'armée à l'heure actuelle, c'est que vous avez 63% de l'armée qui est constituée d'officiers et sous-officiers, 37% d'hommes du rang. Eh bien, ça, c'est une situation tout à fait aberrante. Donc, je crois qu'il reste encore énormément à faire, et c'est en partie la raison pour laquelle l'armée, qui en principe devrait protéger la vie des civils, est une menace quasi quotidienne pour les populations civiles. Alors, à la décharge du président Kabila, il faut faire remarquer 2 choses. D'abord, je voudrais souligner les circonstances exceptionnelles qui ont présidé à la reconstruction de l'armée. L'armée, c'est une armée de briques et de brocs. Le noyau dur, ce sont les phases qui ont été récupérées, auxquelles a été ajouté des éléments de la FTL. Après ça, des éléments Maïmaï, des éléments récupérés. Et on est arrivé à une armée sans aucune cohésion, qui était une armée constituée de pièces rapportées. Et c'est un aspect historique de l'histoire des Fardes, dont il faut, disons, se rappeler ensuite. Les bailleurs de fonds ne sont pas sans également porter une très lourde part de responsabilité dans les défaillances de l'armée, et je fais allusion en particulier au travail de l'ESSEC, European Security Sector Mission, qui a été mis en place en 2005, et qui était constitué d'experts de la France, de l'Angola, de l'Afrique du Sud, aussi de la MONUC. Et il faut quand même remarquer qu'ils n'ont pas fait un très bon travail. Pourquoi? Parce que il y avait des désaccords au sein de ces experts, aussi parce que il y avait très peu de coordination entre, disons, l'organisme congolais chargé de la restructuration de l'armée. Je fais allusion à la CONADER, à la Commission nationale pour le désarmement, qui était un véritable nid de corruption, comme chacun sait.
Professeur Lemarchand.
Oui, allô?
Excusez-moi, on a allô? Retenu pour la partie sécuritaire. Vous avez dit que la réforme du secteur oui. sécuritaire a échoué. Vous mettez ça oui. dans le compte négatif. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur le plan politique?
Alors, sur le plan politique, je crois qu'il y a eu d'énormes progrès qui ont été réalisés. Et c'est un aspect qui n'a pas été suffisamment mis en lumière. Qu'est-ce que vous aviez, disons, à partir de 2001, à partir du moment où Joseph Kabila prend la succession? Eh bien, la moitié du territoire était en dissidence. Le pays avait été mis en coupe réglée. Et même après 2003, ce que vous aviez, c'était une formule de 1 plus 4, qui était une formule extrêmement boiteuse. C'était un gouvernement qui n'avait aucune légitimité. C'était en fait une coalition d'anciens groupes armés dissidents, les MLC, FED. Et aujourd'hui, nous avons quand même un gouvernement qui fonctionne plus ou moins bien. On est loin du compte quand il s'agit, disons, de la gouvernance, de l'honnêteté, disons, des gouvernants. Au niveau de la légitimité, on peut s'interroger également sur la question de savoir si les élections de 2005 ont créé suffisamment de légitimité au gouvernement mis en place après les élections. Mais il y a quand même des institutions politiques qui fonctionnent.
Merci.
En épreuve, par exemple, le rapport d'enquête sénatoriale sur le secteur minier qui contient des recommandations extrêmement sages et qui, je l'espère, seront écoutées par le gouvernement et
Merci, professeur.
Sont suivies d'effet.
Merci, professeur. On vous garde à tout au long de cette émission. Sénateur Moulaïla, vous avez suivi Maître Jean-Joseph Mukindi, qui parle de la dégradation de la sécurité, notamment dans les Kivus. En plus, il y a les auditeurs qui sont très intéressés par ce sujet et qui nous ont écrit, notamment Norbert de Kalemie-Katanga, qui dit « Le bilan de Joseph Kabila depuis son accession au pouvoir est largement positif, car le pays était divisé en trois, mais par sa sagesse, le Congo est aujourd'hui uni et indivisible. Malgré la politique séparatiste qu'ont les politiciens congolais. Kouli est ainsi loué de bénir Nord Kivu. Le bilan est mitigé car la reconstruction a démarré et la paix revient à pas de tortue. Mais sur le plan social et la lutte contre l'impunité, le bilan est négatif car les détourneurs ne sont pas toujours traduits en justice. Kabayou de Manono au Katanga. Le bilan est mitigé parce que les bonnes intentions du président de la République sont prises en otage par la classe politique. Sénateur Moulaïla.
Monsieur le journaliste, je suis en train de vous parler en fonction des engagements pris par le chef de l'État, pas en fonction de ce que les gens racontent.
Qui semble être contredit par les réalités sur terrain.
Les réalités sur terrain, je ne suis pas contredit. Et là, il y a même le professeur qui a parlé, heureusement, il a insisté qu'il n'a pas la maîtrise des données sur le terrain. Il bénéficie vraiment de toutes les excuses du monde. Sur le plan sécuritaire, je voudrais insister. le
maître Mukendi.
Maître Mukendi a parlé et il insiste, et je crois que mes électeurs vont me contredire. Moi, je lui dis non. Je suis un acteur politique. De 2001 à ce jour, je suis en train de suivre l'évolution des actions sur terrain. Maître Mukendi ne va pas me contredire, à moins qu'il ait envie de me contredire. L'insécurité à l'Est, nous partons de l'occupation. Il n'y a plus d'occupation. Le professeur a dit 1 plus 4 est arrivé à des conclusions malheureuses. C'est normal. Le chef de l'État qui avait déjà mis le pays sur le rail, partant, il accepte le dialogue intercongolais. Condition sine qua non que ceux qui prétendent avoir des projets de société pour le développement de ce pays puissent aussi participer à la gestion, ni gagnant, ni vaincu.
Ça, maître Mukendi a aussi reconnu que c'était un...
Nous avons accepté. Et de là à ce jour, ou bien vous avez été à l'Est, ou vous n'avez jamais été à l'Est, pendant l'occupation. La vie des hommes n'avait pas de sens. Moi qui vous parle, j'ai été dans une mission sénatoriale. Suis allé rencontrer Kunda dans son retranchement. J'ai parcouru Nord-Sud Kivu. Ce que j'ai vécu en ce temps, aujourd'hui ça n'existe plus. Et les efforts du gouvernement en ces jours pour rétablir la paix, pour s'attaquer aux résistances résiduelles, pour arriver à convaincre aux pessimistes qui continuent à croire qu'on ne peut pas évoluer dans un pays démocratique où le peuple s'exprime, qu'il faut prendre une arme pour gagner une fonction, pour gagner la vie, cet effort du gouvernement doit être reconnu. Et c'est ce qui se passe.
Et le professeur Le Marchand a parlé de l'échec de la réforme du secteur.
La réforme est en cours. Il s'agit de quelle armée? Il s'agit de quelle armée? Après l'AFDEL, il fallait réformer l'armée. Peu de temps après, on est attaqué. Les volontaires s'y mêlent. Et après le dialogue intercongolais, les chefs rebelles amènent de longues listes, des effectifs incontournables et dénombrables. Le gouvernement dit pas de problème. Les partenaires nationaux et internationaux s'associent à la volonté du chef de l'État pour la réforme de l'armée. C'est un processus et je souhaite que tout le monde observe, que tout le monde puisse avoir des paramètres et des éléments de référence afin que le jugement soit objectif. Moi, je vous dis, la réforme est en cours et cette réforme finira par permettre à la République démocratique du Congo d'avoir une armée forte. Déjà, nous avons déjà une armée forte qui est en train de prouver de quoi elle est capable sur terrain.
Maître Jean-Joseph Mukendi, deux autres auditeurs, Kakoulisef Augustin de Kalemio Katanga, d'une part le bilan est positif car il y a eu réunification, d'autre part il est négatif parce que la vie sociale du Congolais est scandaleuse suite à la modicité salariale du fonctionnaire. Un auditeur anonyme de Goma, le bilan est vraiment mitigé, même après les élections. Il est surtout caractérisé par un pouvoir de quota et non de compétences. Le peuple ne sent pas des dirigeants rigoureux et compétents. La récréation et l'impunité sont vérifiables même à la base. Mais d'après le sénateur Moulaïla, apparemment vous n'avez pas les deux pieds sur terre.
Si vous avez bien suivi le sénateur Moulaïla, c'est un politique sain. Il ne vous a pas dit qu'il tient compte des réalités. Il parle, j'ai noté, il parle des engagements pris par le président de la République. Le catalogue de bonnes intentions, chaque fois que le président de la République, au message de vœux, il parle, on croirait que le lendemain, on serait bien. Il a parlé dernièrement et la situation n'a pas changé. Pour résumer sur le plan sécuritaire, et là, le sénateur ne me contredira pas, il ne me contredira pas que à la période de la Noël et de Nouvel An, on a tué une religieuse et un prêtre donc au Kivu. Il ne me contredira pas qu'un jeune étudiant ait
des actions égarées. On peut pas.
Ce ne sont pas les actions.
Sénateur Moulaïla, vous avez le temps. Mais non, ne jugez pas l'action du chef de l'État sur base du comportement des marginaux.
Sénateur Moulaïla.
Là, je ne vous concède pas, Maître Mukendi, j'ai beaucoup de respect.
Sénateur, vous êtes le maître, excusez-moi.
Rentrons dans les règles de jeu, ne tombons pas dans le piège de l'émission Le Mirador. Ne soyez pas tentatifs.
Non, non, c'est une très bonne éducation, Maître.
Excusez-moi, Maître, vous avez la parole. Vous, Sénateur Moulaïla, je vous appelle à l'apaisement. Chacun a son temps.
Je suis très apaisé, Monsieur le journaliste. Maître peut continuer. Il parle sous base de données vérifiables.
Voilà, vous êtes très apaisé.
Ils ne soutiennent pas le négatif par le comportement des marginaux.
Je vous en prie, permettez-moi de le constater.
Les auditeurs qui nous suivent voient justement comment le déclin de la démocratie. Il y a l'abus de la position dominante de la majorité. La minorité, voilà. Il y a l'abus de position dominante. En fait, la majorité croit que parce qu'ils ont eu des élections, ils ont acheté le pays. Et ils ont tout droit de tout dire, on ne peut pas les contester. Mais il y a les faits qui les contestent. Sur le plan sécuritaire, je me résumais, il y a eu des engagements qui ont été pris. Mais la réalité est là. Qu'on dise que nous allons faire des efforts, nous allons souscrire ces efforts-là.
Mais Maître Mukendi,
oui,
entre... Avant 2001 ou pendant la période de la rébellion, est-ce qu'on pouvait circuler dans le pays autant qu'aujourd'hui?
Oui, non, mais maintenant, on ne veut pas aller au parc de Virunga. Je ne sais pas si... Non, je regrette. Je regrette vivre comme ça. Prenons l'avion demain, allons au Virunga, nous allons raconter les troubles. On va y aller demain. Non, il ne faut pas qu'on raconte les choses. Les gens nous écoutent à travers le monde entier. Sur le plan sécuritaire, il n'y a pas de poste résiduel. Il y a tout un continent qui n'est pas du tout sécurisé.
Ça, donc, vous l'avez déjà dit.
Je l'ai déjà dit.
Alors, sur le plan politique, je dépêche son temps plus ou moins librement.
Sur le plan politique, je vous dis que c'est la preuve qu'on fonctionne librement. C'est que vous voyez, quand je veux parler la parole, on est à Tion. Et c'est comme ça que le pays fonctionne maintenant. La majorité a la position dominante. Et à tout moment, ils ont le monopole de la radio nationale, ce sont eux qui s'expriment. Ils ont le monopole des masses médias. Et nous, de l'opposition, nous n'avons pas la possibilité de nous exprimer. Dès que vous exprimez, on est directement tatillon, on vous menace de prison. Bref, il y a donc là l'abus de position dominante qui menace la démocratie. Il y a une absence totale de bonne gouvernance dans ce pays. La preuve est que le problème du budget que nous vivons ici, avec nous, vous avez effleuré le fonds social, nous allons y arriver. Mais le problème social, le mal social, provient des difficultés politiques. Le budget de l'État n'est pas conçu en fonction du développement, en fonction du bien-être, en fonction des avantages politiques des cadres dominants.
Mais toutes les institutions qui ont été mises en place, là, vous pensez que ce sont des efforts vains?
Les institutions ont été prises justement. Les institutions sont là, mais ils ont une présence bancale, hein, ceci que leur présence. Ils n'ont pas aucune signification pour le peuple. Nous avons un ministère des Travaux Publics. Allez dire aux gens de Delvaux qu'il y a un ministère des Travaux Publics et national et provincial. Il y a l'érosion à 5 mètres de la route nationale. Et là, vous allez dire qu'il y a des progrès, comme ça. Et là, c'est dans la ville de Kinshasa. Vous allez vers l'Ovanium. Et c'est partout la même chose. Donc, cette érosion-là, par exemple, de la poche de Matéba, qui est à 5 mètres de la route nationale, toutes les autorités passent par là. C'est là, je crois, le thermomètre de l'absence de vision politique, l'absence de bonne gouvernance et tout simplement l'abus, la jouissance. C'est un pouvoir de prédation, purement et simplement. Donc, autrement dit, le pouvoir qui est venu après les élections, c'est un pouvoir de prédation, ce n'est pas un pouvoir de gouvernance. Et là, je crois que c'est une régression. Et il n'y a pas de démocratie. La démocratie est confisquée au profit d'une minorité qui a gagné les élections. Et il y a donc abus de position dominante et c'est un danger pour le peuple, un danger pour l'avenir.
Voilà, le sénateur Moulaïla est apaisé, il nous l'a dit. Sénateur, je veux vous accorder la parole en temps utile. Le temps de faire parler le professeur Le Marchand. Professeur, en ce qui concerne la réforme de l'armée, le sénateur Moulaïla a dit que c'est tout un processus, donc il ne faudrait pas d'emblée parler d'échec. Allez-y avant qu'on en aborde la deuxième partie de cette émission.
et sans vouloir m'ingérer dans les désaccords entre M. Moukendi et M. Mulaïda, je crois qu'on est devant la question classique, est-ce que le verre est à moitié rempli ou est-il à moitié plein? Et ça dépend de votre perspective, ça dépend de vos préjugés, etc. Je crois qu'il y a certainement encore énormément à faire, je l'ai dit, je le répète. La réforme secteur sécuritaire est une tâche gigantesque, très importante, et il reste encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que pour nettoyer les écuries d'Augias du secteur sécuritaire, qui est un secteur gangréné par la corruption, et il faudrait avant tout, mettre en place un contrôle de la chaîne des paiements, de façon à ce que l'armée ne soit plus le nid de corruption qu'elle a été. Il faudrait aussi procéder à une restructuration d'états-majors, surtout des états-majors provinciaux. Et c'est là où on touche du doigt, disons, la faiblesse de l'armée des FARD. Les FARD qui devraient protéger les populations civiles sont en fait une menace quotidienne pour les populations. Et ça, on ne peut pas le nier.
Voilà, sénateur Moulaïla, nous allons aborder avant de prendre les défis, le bilan socio-économique. Il y a Augustin Mwango de Kindu Maniema qui dit « Je crois que le président Joseph Kabila a réussi à libéraliser les partis politiques, chose qui n'avait pas été faite durant le règne de M. Laurent Désiré Kabila. Cependant, il faut avouer que ces 9 ans au pouvoir sont caractérisés par le non-respect des engagements, le mauvais paiement des fonctionnaires, la corruption et la violation massive des droits de l'homme. Bref, la situation sociale ne fait que se dégrader. » Jean de Likasio-Katanga, le bilan de 9 ans de Joseph Kabila demeure complexe et mitigé. Le tissu économique se détruit davantage, plus de chômeurs que du temps de Mobutu, culte de la personnalité partout, inflation monétaire des contrats léonins, plus de routes, surtaxation des services de l'État. Sénateur, nous sommes sur le plan socio-économique.
Bien, sur le plan socio-économique, 2001, Joseph Kabila Kabange, président de la République. Le pays renoue avec les institutions de Bretton Woods et sur base de cela, un document de stratégie de réduction de pauvreté mis en place est agréé par ces institutions. Un engagement politique.
Les salaires ont-ils changé?
Je vous en parle. Les salaires, nous parlons des salaires. Moi-même, j'ai envie d'avoir un salaire très important.
Vous en avez nous n'avons jamais pensé
à la production. Nous n'avons jamais pensé que nous, Congolais, nous puissions changer la mentalité. Mon voisin de gauche parlait de prédation, parlait de...
Maître Moukendi.
Oui, Maître Moukendi, et de droite, je veux dire. Maître Moukendi parlait de tout ce qu'il a dit. Avant que j'aborde ces questions, je vous dis ceci. Jamais ce pays n'a eu un régime aussi soumis à la bonne gouvernance que le régime Joseph Kabila Kabange, que Dieu lui prête vie et qu'il gouverne longtemps.
Son 9 ans au social des Congolais, c'est largement
amélioré. Je reviendrai au social et je veux parler d'abord de la politique.
Savez-vous, allons-y au social parce que nous sommes
en aujourd'hui, il y a toute une loi qui régit l'opposition politique. Savez-vous cela? Savez-vous aujourd'hui, j'ai parlé du DCRP. Savez-vous que de ce DCRP est né...
Quel est le taux d'application du DCRP?
Mais le taux d'application du
DCRP... Il est presque nul, nous avons déjà
signé le temps. Pas nul, il faut comprendre. Ça a été brisé par l'arrivée de 1+4. Alors, brisé par 1+4, n'en déplaise, le président de la République s'est réengagé et il a pris toutes les initiatives utiles pour l'amélioration des conditions de vie du peuple congolais. Il a demandé que nous commencions d'abord tous par nous impliquer dans le secteur de production. Qui est celui qui s'intéresse à la production? Vous et moi, vous produisez, moi je peux produire, mais qui d'autre? Alors, laissez-moi parler puisque vous avez
demandé la nature. Vous êtes en avance.
Alors, nous avons dit le travail peut contribuer à ce que chacun de nous puisse avoir un niveau de vie très élevé,
Donc, vous voulez dire qu'il y a eu beaucoup d'emplois créés.
Les emplois sont créés. Vous, là, vous n'étiez pas journaliste avant la durée du Kabila. Vous n'étiez pas journaliste à l'OCAPI. Vous bénéficiez. Vous êtes un des produits.
Et puis, vous, déjà, sénateur?
Je suis le produit aussi de Kabila. Je vous remercie.
Voilà. Maître Mukindi, sur le plan socio-économique.
Oui, je crois que le peuple a parlé. Moi, je répondrai à la question à laquelle l'honorable ne veut pas répondre. Les emplois ont été créés, oui, mais les emplois politiques. Quand vous voyez, il est bon de lire l'étude du professeur Kankwende qui a analysé le budget de l'État depuis les années 1989 jusqu'en l'an 2003. Vous verrez que les dépenses politiques qui, en 1989, étaient de l'ordre de 10%, sont passées à 40%. C'est parce qu'il y a eu augmentation des cadres politiques. Et ces cadres politiques sont toujours payés. Leurs arriérés sont toujours payés régulièrement. Donc il y a eu augmentation d'emplois politiques, des cadres qui sont là. Et quand on parle par exemple de personnes qui ont un niveau d'aisance, ce n'est que dans ce milieu-là. C'est pour dire que le régime a créé une petite catégorie donc de personnes qui doivent être attachées, qui ont pour vocation de venir défendre le régime, à tout prix de passer pour faire perdurer donc ce régime de prédation. Mais il est quand même dangereux et je crois que là, quelque part, nous devions être faire attention. Et je crois que le pouvoir a intérêt à écouter l'opposition puisque le cri du peuple. Quand on parle de maintenant de la situation économique, mais quittons la ville de Kinshasa, allez à l'Équateur. Nous parlons de la fête de Dongo, mais quand vous voyez réellement les crises et les causes de la crise de Dongo, ce sont des causes économiques, l'absence de moyens de subsistance. Vous allez dans le banc d'Ondissi beaucoup plus près. Nalom, ne parlons même pas du cas des deux Kassai. Là, c'est vraiment c'est un continent oublié, où il y a vraiment le foyer de pauvreté le plus bas possible. C'est pour vous dire que il y a un effort, si on parle d'un programme. Il y a eu de bonnes intentions, mais maintenant, il faut la mise en application n'est pas bonne. Peut-être le président Kabila a dit, comme il n'a pas de conseillers pour appliquer ce qu'il doit faire, mais il n'a pas besoin seulement de 15 conseillers. Il n'a écouté que les 60 millions de Congolais. Le cri de tous les Congolais, ce sont tous les conseillers de Kabila, nous de l'opposition. Ce que nous disons, c'est pour que lui qui est au pouvoir, il fasse des routes pour que les gens puissent produire, qu'ils puissent construire les hôpitaux, amener les médicaments. J'ai eu un malade dernièrement à l'hôpital.
Très rapidement,
parce que c'est important. J'ai perdu un être cher la semaine passée. Mais le temps que j'ai observé, mais cet être cher est mort pourquoi? Parce que le personnel médical n'était pas payé pendant qu'il était en soins. 4 jours après, le personnel était en grève et lorsqu'il a repris, et pendant ce temps-là, on a de l'argent pour transférer les gens en Afrique du Sud. Est-ce que les 60 millions peuvent aller en Afrique du Sud? C'est ça le développement.
Voilà,
l'évolution.
Je vous arrête,
maître. C'est ça le respect des engagements.
Je vous arrête, maître. Professeur René Lemarchand, un mot sur l'aspect socio-économique et nous abordons, je vous pose directement la deuxième question de la deuxième partie de cette émission. Quels sont pour vous les défis à relever en ce qui concerne le mandat du président Joseph Kabila?
Oh, alors là, je crois que il y en a plusieurs. On a déjà parlé du secteur sécuritaire. Je crois qu'il faudrait aussi une deuxième priorité, c'est la reprise en main des entreprises minières pour leur faire dégorger les taxes, les impôts, les redevances qui sont dues à l'État. Et c'est quelque chose qui a été très bien mis en lumière par le rapport du Sénat sur le secteur minier. Quand on réfléchit au manque à gagner, représente l'incapacité de l'État à collecter son dû, on en reste pantois. Songez par exemple que, alors que l'État aurait dû récolter l'équivalent de 74 millions de dollars du secteur minier, on en a récupéré 814 000. Ça soulève la question de savoir pourquoi est-ce que l'État est incapable de reprendre en main les entreprises minières. Une autre priorité, un autre défi à relever, c'est le problème foncier. Le problème foncier dans l'est du Congo est un problème absolument gravissime et d'une énorme complexité. Et le défi donc, auquel l'État doit faire face, c'est non seulement de mettre fin au désordre, et on espère que la réforme sectaire sécuritaire en arrive par là, mais l'État doit aussi mettre fin à la violence et par conséquent supprimer les causes du désordre, c'est-à-dire tous les facteurs qui expliquent le niveau de la pauvreté, le problème des terres, le fait que les minorités, je pense en particulier à la minorité de Banyamulenge, qui méritent d'être reconnues, à qui on doit reconnaître leurs droits en tant que citoyens, parce que ce n'est pas parce que le Congo a été agressé en 2004 par deux Banyamulenge, seigneurs de guerre soutenus par le Rwanda, que tous les Banyamulenge doivent être tenus responsables de cet épisode, l'un des plus graves et en fait l'un des plus lourds de conséquences de l'histoire récente. Donc il y a toute une série de défis auxquels l'État doit faire face, et je voudrais insister sur le fait que le développement économique est lié au renforcement de l'efficacité de l'État, de la bonne gouvernance. L'incapacité du Congo à l'heure actuelle d'impulser un développement économique satisfaisant, c'est en partie le reflet de la faiblesse de l'État. Donc, c'est ce cercle vicieux qu'un État faible engendre une économie faible et vice-versa. C'est ça le problème qui doit être résolu.
Voilà, professeur René Lemarsan, juste rappeler que vous intervenez de la Floride aux États-Unis. Puisque vous avez la parole, nous abordons la dernière partie de cette émission. Je vous demanderai déjà votre conclusion.
Bien, ma conclusion, c'est qu'il faudrait se garder de ne retenir que les aspects les plus négatifs du bilan depuis la dernière décennie. Des progrès considérables ont été réalisés à certains niveaux, certainement au niveau de l'efficacité des institutions politiques, au niveau, de la légitimité du gouvernement. Je crois que le gouvernement est animé de bonnes intentions. Mais le gouvernement est lui-même, captif, prisonnier de son passé.
Merci pour ces
C'est quelque chose que je veux souligner, qu'on ne peut pas s'attendre à un miracle du jour au lendemain.
Merci, professeur. Sénateur Moulaïla, les défis, quels sont les défis qui attendent le président Joseph Kabila? Le professeur Lemarsan a parlé de la reprise en main des entreprises minières et du problème foncier. Qu'est-ce que vous avez à ajouter? Ce sera aussi votre conclusion dans les minutes qui nous restent.
Oh oui, pour moi, je préfère vous dire les défis du chef de l'État ou les défis de la République tout entière. C'est d'abord la réalisation effective des 5 chantiers dont le début d'exécution est visible et palpable. Je dirais aussi qu'il faut renforcer l'état de droit, il faut consolider la démocratie qui existe déjà et la bonne gouvernance, il faut de plus en plus garantir les droits de l'homme tel que ça se fait, renforcer la justice. Et cela va permettre à tous les Congolais de se sentir protégés et aussi leur bien protégé. Je voudrais, puisque vous me dites que j'aille vite au résumé, pour moi vous voulez que j'aille vite,
en 15 secondes,
vous pouvez même m'accorder une seconde,
je vous dirai.
Alors, je voudrais vous dire, pour moi, le défi à relever est que toutes les forces vives se mobilisent pour participer à la production, et afin d'améliorer par leur travail, par leurs conditions de vie, et que l'éducation, la santé et tout cela puisse atteindre des aspects qui sont plus acceptables, que tous les opposants, que tous les opposants participent d'une manière constructive à la correction des erreurs du pouvoir majoritaire.
Merci,
parce que quelqu'un parlait de la minorité.
Merci, maître.
Je vous remercie.
Votre conclusion.
Oui, honorable, nous sommes bien d'accord de corriger ces erreurs, mais alors c'est là où se dit justement le grand défi que doit rencontrer le président Kabila. Il est d'abord un défi important. Quand le président Kabila a pris le pouvoir, quand vous écoutiez des personnes qui le côtoyaient, qui l'ont vu, il vous disait ce qui caractérise le jeune président par rapport à son papa, c'était sa capacité d'écoute.
Eh bien, j'ai comme l'impression que 9 ans après, cette capacité d'écoute s'est émoussée. Parce que le peuple, mais mon honorable, vous avez parlé, on vous laisse tranquille.
Maître, concluez, maître.
Non, mais vous voyez, on veut toujours étouffer la voix, c'est ça. Aider le président, il n'y a pas de vérité, vous étouffez la vérité. Que le président écoute le cri du peuple congolais, les érosions qui sont là, vous là, sénateur, vous les voyez, vous passez avec les limousines, vous ne faites rien, c'est ça le défi, et puis l'organisation des vraies élections, et que vous ne voulez pas organiser pour le moment. Voilà les deux défis.
Merci à tous les auditeurs qui ont été très nombreux à nous écrire, Ikoa Kia de Goma, dont nous n'avons pas pu lire la réaction, Poi Kabangi de Mbujimayi, Emmanuel Baguma de Kananga, Didier Kisuki de Bénin au Nord Kivu et tant d'autres. Dialogues entre Congolais, c'est fini pour aujourd'hui. Vous avez été des millions à nous suivre. Dimaté et Kevin Kouté vous ont préparé cette émission. Dimanche Dangou la mise en onde et Alain Roux de Mouchi, je vous la présenter sous la coordination de Ben Kabamba. Restez branchés sur Radio Kati. Thank you.